Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il nous faut parler de la dernière partie de la pénitence, à savoir la satisfaction. Le péché a créé un désordre. Bien sûr, remet la contrition avec l'accusation des péchés, remet la faute, mais il va de soi que le désordre doit être réparé et que le seul fait de reconnaître sa faute ne suffit pas à réparer le désordre. Si quelqu'un vous a offensé et qu'il a créé un désordre chez vous, il a porté atteinte à vos droits, que sais-je. Vous lui pardonnez parce qu'il demande pardon, parce qu'il s'accuse, mais il est évident que ce pardon suppose une remise en ordre. Et il est évident qu'en demandant pardon, il ne peut que vouloir la remise en ordre, sinon il n'y aurait pas de justice, et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amitié. Et s'il n'y a pas d'amitié, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est ces trois éléments de contrition, d'accusation de péché et de satisfaction ne font presque qu'un. Enfin, ce sont trois éléments de la vertu de pénitence. Ils sont tous les trois nécessaires à la vertu de pénitence. Il n'y a qu'une seule vertu de pénitence. Et elle contient trois éléments sans laquelle elle n'est pas ce qu'elle doit être. Elle n'existe pas du tout, d'ailleurs. Alors cela, vous voyez, nous l'avons beaucoup oublié. Le monde moderne nous l'a fait beaucoup oublier. Cette nécessité de la réparation devrait être une évidence pour quiconque se rend compte de la majesté de Dieu. La majesté infinie de Dieu offensé. On voit très bien que la suppression des œuvres de pénitence, des œuvres satisfactoires, depuis le Concile Vatican II, est en réalité un mépris de l'honneur de Dieu. Sous prétexte de faciliter la vie chrétienne à nos pauvres contemporains, on les enfonce au lieu de les sortir du péché, et la suppression des œuvres de pénitence va avec la vulgarité du culte moderne de Paul VI, va avec l'œcuménisme qui traite à égalité ceux qui offensent Dieu et ceux qui le respectent dans la foi, etc. Alors, si vous avez conscience de la majesté de Dieu, vous me direz, mais on ne peut pas rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû comme il faut, et on ne peut pas réparer à égalité. La réponse tient en deux éléments. Le premier, le bon Dieu n'a jamais exigé que nous ayons envers lui un comportement qui soit à l'égal de sa majesté. Il a toujours demandé que nous ayons envers lui un comportement qui soit selon toutes nos forces. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et non pas de toutes les forces de Dieu. C'est une merveille que Dieu veut mettre entre lui et nous, l'amitié, la charité d'amitié, alors que nous n'avons rien pour le mériter, c'est un don totalement gratuit. Mais cette amitié reste une amitié inégale entre Dieu infiniment grand et l'homme qui n'est grand qu'à la mesure de ce que Dieu lui donne. Et donc Dieu demande que l'on vive dans l'amour selon toutes nos forces, et donc il demande que nous réparions selon toutes nos forces. Et voilà pourquoi l'homme peut facilement réparer. Il y a une autre raison à cela, et qui domine toute la satisfaction comme cela a dominé toute la contrition, c'est l'amitié. L'amitié de Dieu, et Dieu est un ami fidèle. Et donc il est un ami qui facilite votre satisfaction. La satisfaction a deux objets. Le premier, de réparer pour le passé, et le deuxième, non seulement de rétablir la justice pour le passé, mais de maintenir la justice, et donc de supprimer les causes du péché. Donc de corriger nos défauts, d'éloigner les causes extérieures du mal, les causes intérieures, hélas, on ne peut pas les éloigner, on ne peut que les affaiblir et les diminuer. Et par conséquent, la pénitence et la satisfaction, nous le voyons bien, a ce double objet pour le passé et pour l'avenir. Et comme il s'agit de maintenir la charité et la justice, l'aspect pour l'avenir est bien plus important que l'aspect pour le passé. Cela ne veut pas dire que vivre dans la charité permet de négliger la pénitence. Cela veut dire que la pénitence doit veiller à la conservation de l'amitié et pas seulement à la réparation. Saint Thomas pose la question: peut-on satisfaire pour autrui? Peut-on faire pénitence pour autrui? Alors il répond: en ce qui concerne la préservation du péché pour l'avenir, il est évident que le jeûne que quelqu'un fait ne profite pas à l'autre. Si ce n'est, et c'est quand même important, en raison de l'amitié divine qui écoute, qui exauce ses amis et qui attribue à d'autres, à celui qui n'a pas pu faire pénitence, les mérites qu'on lui offre pour les autres. Nous verrons cela aussi avec les indulgences. Et c'est ainsi qu'on raconte, et saint Thomas le raconte, dans la vie d'un père du désert, qu'un moine du désert avait fait pénitence pour un autre qu'il croyait avoir fait un gros péché. Or l'autre n'avait pas fait ce gros péché. C'était un troisième qui était l'auteur du péché. Eh bien, la pénitence faite par le premier a obtenu la conversion du troisième. Parce que le bon Dieu aime que ses amis prient pour que le pécheur rentre dans l'amitié. Et saint Thomas nous explique d'ailleurs que cette amitié donne un prix considérable à la pénitence faite pour autrui, ce qui fait qu'une œuvre même petite a une grande valeur quand elle est faite pour autrui. La pénitence faite pour la réparation du péché, elle, peut être faite pour quelqu'un d'autre. Celle pour l'avenir ne lui profite pas, si ce n'est, comme je vous l'ai dit, celle pour le passé lui profite parce qu'il y a une restauration de l'ordre. L'Église a été abîmée, peut-on dire, par le péché. Si quelqu'un remet de l'ordre, rend sa splendeur à l'Église, que ce soit le coupable ou non, cette splendeur est rendue. Vous allez me dire, mais le coupable quand même, il faut qu'il soit d'accord. Mais évidemment qu'il faut qu'il ait la contrition et qu'il ait accusé les péchés. Là, nous parlons de la satisfaction qui vient achever. Et c'est ce que nous voyons dans l'Église, et c'est très important. Tous ceux qui sont fidèles restaurent l'honneur de Dieu et compensent le déshonneur. Alors c'est sans fruit pour ceux qui ne demandent pas pardon, mais c'est avec beaucoup de fruits pour ceux qui demandent pardon. Et même le bon Dieu, c'est l'histoire de 10 justes de Sodome. Si Dieu avait trouvé 10 justes, il aurait pardonné à la ville. La principale qualité de la satisfaction, c'est d'être faite en état de grâce. Il suffit de réfléchir 2 minutes pour le comprendre. On ne peut pas être à la fois ami et ennemi de Dieu. On ne peut pas, dans l'amitié, être en même temps ami en étant injuste. On peut être juste envers quelqu'un qui n'est pas ami, mais on ne peut pas être ami si on est injuste. Or, Réparer, c'est-à-dire rétablir la justice. Sans vivre dans l'amitié de Dieu, c'est un non-sens. Et alors voilà pourquoi les œuvres faites sans la charité ne sont pas satisfactoires. Enfin, saint Thomas précise quand même, elles n'obtiennent pas un mérite en stricte justice, mais il y a une convenance que Dieu récompense quand même un peu, d'une certaine manière, les œuvres de pénitence qui sont faites par quelqu'un qui n'est pas son ami. Et saint Thomas nous dit que ces œuvres peuvent obtenir trois effets, soit un succès temporel, ici-bas, soit une disposition à la grâce, soit une habitude des bonnes œuvres. Quand je dis que les œuvres satisfactoires doivent être faites en état de grâce, la contrition rend la grâce même à celui qui n'a pas encore pu se confesser du moment qu'il désire se confesser. Nous arrivons maintenant à la qualité des œuvres satisfactoires et saint Thomas nous fait remarquer qu'elles doivent être nécessairement une peine. Et ça, c'est très important, parce qu'on a tendance à croire qu'une œuvre simplement bonne satisfait pour le péché. Nous avons tendance à croire que la charité suffit et dispense de la pénitence. Ce n'est pas vrai. Il faut une peine pour la réparation du passé. C'est très simple à comprendre. Le pécheur s'est attribué quelque chose à quel il n'avait pas le droit. Il est nécessaire pour rétablir l'équilibre qu'il se prive de quelque chose auquel il a droit. Pas seulement quelque chose de facultatif, mais quelque chose même d'important, enfin relativement important pour lui. Voilà pourquoi saint Ignace, dans ses exercices, dit que revenir à la pratique de la vertu, ce n'est pas faire pénitence. Faire pénitence, c'est se priver de quelque chose à quoi on avait légitimement droit. C'est pour ça que les habitants de Ninive, à la prédication de Jonas, lorsqu'ils font pénitence, jeûnent et se couvrent la tête de cendres, et également font jeûner les animaux pour qu'il y ait le rétablissement de l'honneur de Dieu par l'humiliation du pénitent, du pécheur. Et pour préserver du mal à venir, la pénitence doit également être une peine, d'ailleurs pénitence, peine, cela va ensemble, la satisfaction doit être pénale. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de guérir un déséquilibre que de se priver de quelque chose. C'est ainsi que les médecins vous mettent à la diète, qui est un jeûne, pour compenser les excès du corps. Alors, saint Thomas pose la question, d'abord, les peines de cette vie sont-elles satisfactoires ? Il répond, à celui qui les prend de bon cœur comme une peine pour ses péchés, oui. À celui qui les subit de mauvais gré, non. Quelles sont les conséquences de cela ? Toute la satisfaction pour le péché devra être accomplie. Que ce soit sur terre, et si ce n'est pas fait sur terre, ça sera au purgatoire. Par conséquent, toute peine d'ici-bas, prise de bon cœur, diminue la peine du purgatoire, et toute peine d'ici-bas, subie de mauvais gré, laisse intacte la punition pour le purgatoire, et même rajoute, par justement la mauvaise volonté, rajoute encore à la peine à payer. Enfin, saint Thomas pose la question, quelles sont les œuvres satisfactoires ? Il répond, il y en a trois, la prière, le jeûne et l'aumône. Pourquoi ? Parce qu'il faut nous priver de nos biens dans l'esprit, dans le corps et dans les biens extérieurs. La prière, ce n'est pas la difficulté de se mettre à genoux qui est satisfactoire, encore que. Non, ce qui est satisfactoire, c'est dans la prière le fait de se soumettre à Dieu. Un petit peu comme le sac de cendre sur la tête. Et cela est une compensation contre l'orgueil du péché. Deuxièmement, le jeûne, parce que le corps s'est attribué de façon indue des satisfactions sensibles et que le jeûne vient rétablir l'équilibre. Et enfin, l'aumône, parce qu'on se prive de biens extérieurs que du coup on n'a plus. Ce qui permettait de s'offrir des petits plaisirs, cela a disparu par l'aumône. Alors il faut bien se rappeler l'importance du jeûne. Sans revenir jusqu'au Père du désert, le Père du désert jeûnait toute l'année, et lorsqu'ils avaient mis 3 grains de sel sur une tartine de pain, ils s'accusaient de gourmandise. 1 seul grain de sel, ils s'accusaient d'orgueil. Saint Benoît est venu mettre de l'ordre dans tout cela parce que, je vous l'ai dit, la pénitence consiste à faire ce qu'on peut et non pas des excès. L'excès dans la satisfaction n'est pas bon. Saint Benoît est venu mettre de l'ordre dans tout cela. Le carême des bénédictins commence le 14 septembre, le jour de la Sainte Croix, et se termine pour la fête de Pâques. Le carême bénédictin, c'est un seul repas par jour, qui est à 3 heures de l'après-midi en temps ordinaire, et puis qui est même à 5 heures de l'après-midi pendant le carême ecclésiastique, celui dans lequel nous sommes actuellement. Et Saint Grégoire le Grand, pape, a loué Saint Benoît pour l'équilibre de sa règle. Nous voyons que nous en sommes loin. Quant à Saint Jean Chrysostome, il recommande le jeûne pour l'éducation des enfants dans son traité merveilleux dont je vous recommande la lecture, La vaine gloire et l'éducation des enfants. Saint Jean Chrysostome était évêque et comme tout évêque, imaginez Monseigneur Lefebvre, il était très paternel. Et il dit qu'un père de famille raisonnable devrait faire jeûner son fils 2 fois par semaine dès que celui-ci entre dans l'adolescence. Il ajoute d'ailleurs qu'il devrait le faire se lever toutes les nuits, ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure, pour adorer Dieu. Contrairement à ce que vous pouvez croire, le jeûne des enfants est plus facile que le jeûne des adultes, parce que les enfants prennent ce qu'on leur donne et il suffit de ne pas y penser pour ne pas avoir trop faim. Nous, les adultes, nous avons plus de mal à ne pas y penser. Bienheureuses familles dans lesquelles les enfants, dès le jeune âge, sont ainsi formés à maîtriser leur corps. Dans l'Église, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait 54 jours de jeûne dans l'année. Les 40 jours du carême, les 4 temps, septembre, l'Avent, le carême on l'a déjà compté, et la Pentecôte, 3 fois 3, 9, ça fait 49. Et puis vous aviez les vigiles, vigiles de la Toussaint, de Noël, de l'Immaculée Conception. Et toute la chrétienté, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pratiquait ces jours de jeûne, et c'était péché mortel que d'y manquer. Louis XV, malgré toutes ses fautes contre la chasteté, et justement parce qu'il voulait dominer son corps, Louis XV faisait un carême tel qu'il devait changer d'habit à la fin du carême tellement il avait maigri. Madame de Pompadour, avec qui il avait péché, quand elle se convertit, a fait des pénitences très rudes. L'Église a adouci cette pénitence de Saint Benoît. Elle permet un petit quelque chose le matin, un petit quelque chose le soir. Ce qui fait que le jeûne est quand même beaucoup moins difficile qu'il ne l'était. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a tout mis en l'air. Pie XII a voulu avoir pitié des combattants et puis on n'aura jamais revenu à la discipline ancienne. Monseigneur Lefebvre a demandé qu'on y revînt. Bien sûr, il n'a rien imposé parce que ce n'est pas son genre et puis il n'en avait pas le pouvoir. Mais il nous fait des recommandations. Et les recommandations d'un homme comme Monseigneur Lefebvre, ça vaut de l'or. Et on doit y faire très attention. La principale qualité du jeûne, le principal effet, c'est de vous libérer. Et ça libère le corps et du coup ça libère l'esprit. Parce que le corps est un allié de l'âme, mais quand il a été appesanti par la sensualité, alors il pèse sur l'âme. Et lorsque le jeûne intervient, le corps est soulagé, et du coup l'âme retrouve dans le corps un allié et non plus une pesanteur. Si vous n'avez pas l'habitude du jeûne tel que l'Église le fait pratiquer, commencez doucement par le jeûne tel que je viens de vous le dire, par exemple le vendredi ou le mercredi, le vendredi et le samedi, et puis vous vous apercevrez de ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas. Le jeûne donne la joie. Non seulement parce que notre Seigneur a dit qu'il fallait jeûner avec joie, mais parce que le jeûne nous rapproche tellement de Dieu, nous fait imiter notre Seigneur Jésus-Christ, et cela nous met dans la joie. Alors je termine ce sermon pour ne pas qu'il soit trop long, et je vous recommande à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.